entre du bushman et au Kassai oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une de Koumbati au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mépris vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ces magazines d'échanges citoyens. Dans une déclaration faite mercredi 11 novembre dernier, le syndicat de la minière des Bakwanga, MIBA, s'oppose à l'émiettement de la concession de l'entreprise qui risquerait, selon la délégation syndicale, d'entraîner la faillite de la MIBA. En octobre dernier, l'ONG Dynamique pour l'Unité et le Développement du Kassai Oriental, Dudicor, avait proposé la création des petites entreprises minières selon le modèle de la Générale des Carrières de Mines, Gécamines, pour relancer la MIBA. Certains observateurs estiment que le gouvernement devra plutôt exécuter le plan d'urgence de la relance de la MIBA, qui est connu et dont le besoin d'exécution nécessite 9 millions de dollars américains. Quel est votre avis? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel si vous avez besoin de nous joindre en direct. Paul Bayanyama est à la mise en onde de cette émission réalisée par Berry Franklin Lushaka. Et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Après l'ex-ONASRA et la SINAS, aujourd'hui, l'émission est consacrée à la relance de la MIBA, une entreprise de l'État qui connaît beaucoup de difficultés aujourd'hui, mais plusieurs voies se sont levées pour pister des solutions, bien sûr, comme l'ONG du Dicor qu'on venait d'évoquer tout à l'heure, qui estime qu'il faudrait aujourd'hui encourager tout celui qui a les moyens d'évoluer dans le secteur du diamant, de venir au Kassai oriental et entrer en contact avec les autorités compétentes de la MIBA pour investir et exploiter les carrés miniers que la MIBA pourrait mettre à leur disposition. Mais la délégation syndicale de la société estime qu'avec l'expérience de la Générale des Carrières et des Mines dans l'Aix et Katanga, si on pourrait ouvrir le marché d'exploitation de carrés de la MIBA, cela ne pourrait limiter l'entreprise et la faire tomber en faillite plutôt que relancer ses activités. Quel est votre point de vue pour la relance de la MIBA? C'est la question au centre de notre échange. Vous êtes nombreux en Mbujimayi et partout où vous êtes, à Kananga, à Lubumbashi, pourquoi pas en province orientale, vous avez besoin de mettre un point de vue sur la relance de la MIBA. Appelez-nous au 081-890-6315. Mais nous avons en direct de Mbujimayi Maître Ken Mukindi. Vous êtes expert en droit minier et conseiller à la société Sogoiz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maître Mukindi.
Bonjour, monsieur le Zimari.
Voilà. Et vous êtes sur place en Mbujimayi. Quelle est votre lecture par rapport aux difficultés que connaît la MIBA aujourd'hui et comment on peut procéder pour relancer cette société?
Merci bien, monsieur le Zimari, de votre invitation. Et profitant de votre micro, je salue tous les aimables auditeurs qui suivent la radio partout pour le moment. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'il y a une solution à un double niveau. La première solution est que, c'est une solution de principe, c'est que la société a ses propriétaires. Les propriétaires de la société sont les associés d'une société. Par rapport à la MIBA a deux associés. L'État qui est majoritaire, avec 80% d'État social, et c'est l'État qui a un deuxième associé. La solution de principe voudrait que les associés mettent l'argent à la disposition de la société pour sa relance. Par exemple, vous avez entendu parler du programme de la relance, d'urgence de la relance, qui nécessiterait 9 millions. Si les associés disposent de cet argent, la solution de principe voudrait qu'ils mettent cet argent à la disposition de la société pour son redémarrage. C'est le premier volet ou la première solution. Mais la deuxième solution, elle est palliative. À défaut des moyens devant provenir des associés, il faut une technique d'autofinancement. Qui voudrait que l'AMIBA, pour certaines de ses concessions, c'est là qu'il faut nuancer l'intervention du syndicat, pour certaines de ses concessions.
Dommage qu'on vient de perdre là notre invité avec qui on était déjà en ligne. Hein. On devait encore avoir le professeur Mbaye Tiapagna dans cette émission qui est membre du réforme des commissaires, n'est-ce pas, de collège pour la gestion de l'AMIBA. Mais dommage qu'on a des petites difficultés pour pouvoir les joindre. Alors là, on vient de perdre Maître Ken Mukendi qui est en train d'expliquer que l'État est majoritaire dans la société avec les parts des 80% et Sibéki à 20%. Mais par principe, il faudrait que les deux associés puissent mettre à la disposition de l'entreprise les moyens nécessaires pour pouvoir relancer ses activités, mais à défaut, lui proposer, il évoquait tout à l'heure, une solution palliative qui est la technique d'autofinancement, et dommage qu'on l'a perdu, on pourra tenter de pouvoir les joindre tout à l'heure. Mais je crois que ce sujet a provoqué vraiment un grand débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Plusieurs personnes ont déposé les messages estimant qu'il faudrait une solution, comme Kayembe Sampi, qui est étudiant en sociologie ici à l'université de Kinshasa, qui dit ceci: si on doit évoquer un montant comme 9 millions de dollars pour relancer l'entreprise, c'est très important. Il faut que l'État puisse considérer que c'est une urgence, parce qu'il y aura des centaines des millions de dollars qui pourront être générés dans la production, mais aussi la création d'emplois. L'État doit connaître les priorités qui seront profitables pour l'ensemble du pays, au lieu de gaspiller l'argent avec d'autres dépenses à travers le pays, la construction des immeubles par exemple. On pourra mettre cet argent dans la relance des entreprises comme la MIBA par exemple, qui pourra résorber le chômage et permettre aux gens de pouvoir avoir l'emploi. Maître Trésor Likonza de Kinshasa dit ceci: pour une intervention, ce problème tient tout d'abord à la maturité des responsables de l'AMIBA. Cette année même, les Congolais ont assisté à un spectacle de la suspension du DG par le PCA à cause d'un contrat signé avec une firme chinoise par le premier sans en informer le second, et pourtant, selon les DG, c'est fui dans le souci de relancer l'AMIBA. Et plus dans l'AMIBA, il y a pas que l'État congolais créer des petites entreprises appellera à des études et des négociations, et lui, il estime qu'il y a d'abord le problème de la définition de ce qu'on voudrait dans la gestion de l'entreprise. Et je crois maintenant nous allons retrouver Maître Mukendi que nous avions perdu tout à l'heure. Maître, vous êtes avec nous, vous êtes en train d'évoquer la technique pour l'autofinancement. Dommage qu'on a perdu votre ligne. On est à nouveau en direct.
Effectivement, monsieur le journaliste, vous êtes en train de dire que la technique d'autofinancement devra consister pour l'AMIBA de mettre à la disposition des partenaires disposant de certains matériels financiers importants les celles de ces concessions qu'elle n'a jamais exploitées depuis que l'AMIBA. Vous savez que les concessions de l'AMIBA s'étalent sur les deux provinces du Kassa, le Kassa oriental et le Kassa occidental, dans leur ancienne configuration. C'est gigantesque comme concession minière. Alors, par rapport aux difficultés actuelles de l'AMIBA, je pense qu'au lieu de geler, c'est le terme qu'il faut utiliser, les concessions de cette manière-là, non seulement c'est manque à gagner pour l'AMIBA elle-même, mais c'est aussi une charge parce qu'elle est appelée à payer les droits de service sur ces concessions qu'elle n'exploite pas. Voyez-vous? Donc, il faut naturellement prendre ces concessions, les mettre, signer des partenariats avec des investisseurs disposant des capitaux prêts, de manière à générer l'argent pouvant aider l'AMIBA à relancer ses activités.
Oui.
Je suis en train de dire que par rapport au permis d'exploitation situé dans ce qu'on appelle actuellement le polygon MIBA, ces permis doivent rester à la disposition de l'AMIBA par pour lui permettre de continuer ses activités. Je voulais aussi intervenir par rapport à un auditeur qui a dit qu'il fallait vendre les immeubles de l'AMIBA. Ça, ce n'est pas une solution en soi. L'AMIBA a des immeubles ou des maisons, des bâtiments dans lesquels il loge ses travailleurs. Lorsqu'on propose qu'il faut vendre ces mal, où iront ces travailleurs qui pour la plupart...
Maître Mukendi, l'internaute ne parlait pas de la vente des immeubles de l'AMIBA, mais il disait plutôt, au lieu que le gouvernement puisse gaspiller beaucoup d'argent dans la construction des immeubles ici à Kinshasa, il faudrait mieux prendre cet argent et relancer les entreprises qui sont en difficulté, notamment l'AMIBA. Voilà le sens de son message sur la page Facebook. Oui, allô, Maître Mukendi.
Parce qu'une société ne peut être relancée que par les sociétaires. À défaut, nous avons proposé la deuxième technique d'autofinancement qui a déjà commencé à produire ce prix d'ailleurs. Il y a quelques contrats que la MIBA vient de signer avec une société, notamment Ritz-Weiler, West River, il y a SMB, il y a aussi Joey Vécarel, rien que pour citer ce dernier contrat qui vient d'intervenir il n'y a pas longtemps, la NEBA générée des frais qui ont permis de juguler la grève qui était déjà annoncée par le travail de la NEBA. Donc c'est vraiment une technique qui s'avère pour le moment salvatrice pour la NEBA.
Oui, on vous garde en ligne. Voilà, on vous garde en ligne et on pourra aussi avec le syndicaliste voir pourquoi on ne préfère pas, parce que si on suit bien ce qui a été dit par la délégation syndicale avec l'expérience de la GECAMINE, ils estiment que cela n'a pas permis plutôt à la GECAMINE d'être relancée, mais c'est plutôt l'émiettement de la société et puis qui va entraîner et la faillite et c'est d'autres investisseurs privés qui pourront pouvoir bénéficier de tout cela. On pourra voir tout à l'heure. Mais il y a Joël Moaou là qui nous qui est à Kinshasa, qui dit ceci: je me pose la question de savoir quelle est la place que le gouvernement accorde aux entreprises publiques génératrices des recettes. L'émiettement de la concession de la MIBA, qui dit les codes miniers autour des concessions minières, voilà, toutes ces questions doivent être examinées dans l'air avec profondeur, surtout sur le plan juridique, ce que cela peut avoir comme implication au niveau de la société, au niveau de travailler tout ça. Je crois que nous avons aussi à partir de Mbujimayi et Didier Chibangu, vous êtes président de la délégation syndicale de la MIBA. Si vous nous avez suivi tout à l'heure, notre compatriote Maître Mukendi, lui estimait qu'à défaut de l'État qui n'a pas de moyens, ou les sociétaires, n'est-ce pas, les associés qui de mettre assez de moyens pour relancer la MIBA, faudrait-il aujourd'hui recourir à l'ouverture de marché, de la concession à d'autres investisseurs privés, un point de vue que, je crois bien, la délégation syndicale ne partage pas. Mais avant d'évoquer cette piste de solution, Didier Chibangu, dites-nous dans quel état se trouve aujourd'hui la société, d'une manière brève, Didier Chibangu.
J'ai la parole, hein. En fait, notre approche objective quant à la question, j'estime qu'il faut avoir une perception ou une lecture exacte des choses. MIBA aujourd'hui, la situation des crises à la MIBA aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité qu'il faut considérer. C'est plutôt une infirmité. C'est-à-dire, MIBA est un état, disons, de maladie qu'il faut guérir. Il faut guérir. C'est ce que je veux dire par là. Il nous faut des moyens pour sortir de là où nous sommes. Parce qu'en fait, MIBA a un gisement avéré. MIBA a une réserve avérée. Mais ne peut être éligible à quelconque crédit dessus de préfinancement si elle n'a pas de certification qui l'atteste. Mm-hmm. Hein? C'est du moins dans cette situation que nous nous trouvons. C'est-à-dire, on n'est pas éligible au crédit parce que notre gisement avéré ne le permet pas parce qu'on n'a pas de certification là-dessus.
Mais aujourd'hui, vous vous battez pour quand même que la suite soit relancée. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité de l'État? Quel niveau aujourd'hui se trouvent les efforts qui sont fournis par le pouvoir public pour arriver quand même à trouver des solutions à cette question épineuse de la société Didier Chibangu?
L'État, avec son pouvoir régalien, à la lumière, disons, de tout ce qui se constate comme situation actuellement, il est le seul qui a le pouvoir de relever la MIBA là où elle se trouve. Hein? Parce qu'il nous faut des moyens pour exploiter ce gisement. Si nous avons des moyens, nous savons exploiter ce gisement et... Les ventes, générer des recettes souvent nous permettent de sortir du gouffre.
Mais disait Thibault, quand on se rend compte aujourd'hui que l'État n'a pas ces moyens conséquents qu'il faudrait aujourd'hui mettre à la disposition de la MIBA pour exploiter ces gisements, si je peux remonter à dans l'émission que nous avons eue pour la relance de la SINAT, c'est le même problème. L'État n'a pas de moyens pour relancer la SINAT. On a vu aussi les difficultés avec l'excès au NAFTA. Ne pensez-vous pas aussi que cette piste est des solutions que d'autres personnes proposent, comme ce que Maître Mukendi Benedi dit tout à l'heure, qu'il y a moyen que la MIBA mette à la disposition d'autres investisseurs privés ces concessions qui n'ont jamais été exploitées, et comme ça il peut générer des capitaux qui puissent lui permettre quand même de faire face à autant de problèmes qui se posent au niveau de la société?
Tout à fait, parce qu'il faut, c'est ce que je dis, hein, il faut une lecture d'approche exacte. Dans le contexte actuel des crises où se trouve être placé la Liban, j'estime que cette politique de s'ouvrir à un partenariat avec le tiers n'est pas une mauvaise politique, mais dans la vision à court terme. Voilà ce que nous concevons. Pour le maintien et la sécurisation de la production, il faut aller dans le contrat d'amélioration.
Mmh.
Absolument. Il faut aller dans le contrat d'amélioration. Mais alors, bien le finaliser, bien définir correctement le taux de loyer, et aussi souhaiter la présence des équipes LIBA auprès des amodiants pour définir correctement la production journalière. C'est-à-dire, nous voulons bien prêter flanc à la politique de la mondialisation parce que ça tire même origine et fondement dans les codes miniers. C'est un des processus parce qu'en fait, depuis que nous attendons des gros financements, que ce soit de l'État, que ce soit des investisseurs étrangers, qui d'ailleurs eux sont comme des gibiers ferreux, tant qu'on n'a pas ce que je vous ai dit, la certification qui quitte à fêter le réserve d'intérêt, bon, il se rétracte. Et alors, dans ce cas-là, pouvons-nous continuer à sombrer dans cette situation qui n'en finit pas, tout en comptabilisant nos morts, et non, en fait, c'est tout à fait normal. C'est là que je souscris au schéma de notre...
De moi, je comprends que c'est un qui est dit.
Ce schéma-là, parce qu'à court terme, ça enjoint un peu à notre approche, vous comprenez?
Oui.
Parce que nous devons à tout prix maintenir la sécurisation de notre production. Et c'est là, ils sont pas faux, ça nous amène à ce schéma-là de contrat d'amodiation.
Voilà, on vous garde.
Bien finaliser ces contrats, définir correctement les taux de loyer et exiger la présence de l'équipe MIBA auprès des amodiants pour définir, enfin des amodiateurs pour mieux définir maintenant la production de journalière.
Voilà, on vous garde en ligne. Voilà, on vous garde en ligne, Didier Tshibangu. Maître Mokendu aussi est en ligne, il pourra suivre le point de vue tout à l'heure et réagir après. Nous avons ici à Kinshasa Théodore Mbia, qui est aussi un acteur dans les secteurs de diamants, et nous faisons le débat sur la situation de la MIBA, comment la relancer, mais aussi faudrait-il qu'il y ait des privés, tous ceux qui sont dans le domaine d'exploitation des diamants puissent avoir la possibilité de pouvoir signer des contrats d'amodiation, comme venait de le dire tout à l'heure Didier Tshibangu, mais il faudrait des contours juridiques nécessaires qui puissent permettre de sécuriser la société et éviter que la société connaisse encore des difficultés. Théodore Mbia, merci de nous avoir appelé ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez suivi
les journalistes.
Vous avez suivi les uns et les autres dans cet échange autour de la relance de la MIBA et l'exploitation du diamant, qui est l'activité principale aujourd'hui qui peut sauver non seulement la société, mais l'ensemble de la population dans les deux provinces, comme on l'a vu dans les temps. Quelle est votre intervention?
Oui, sûrement, c'est une bonne chose d'accorder cette possibilité aussi aux privés. Mais il faudra-t-il que les privés aient aussi des moyens nécessaires. Par exemple, moi, je suis propriétaire d'un diamant qui a été volé en 2005. Ce diamant a été amené chez deux trafiquants puissants du Kasaï qui l'ont exporté frauduleusement. Et le diamant est retourné encore au pays par une commission gouvernementale. Mais je me suis plaint, j'ai introduit ma requête au parquet général de la République. J'ai participé également des milliards. Et avec les milliards, on peut certainement relancer la MIBA, ou même ouvrir d'autres possibilités dans les pays. J'ai introduit ma requête au parquet général de la République, et le parquet nous a suivis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, et sans vraiment de
décision.
Mm-hmm. Oui.
Vous avez dit tout à l'heure que avec vous qui êtes dans l'exploitation avec les diamants, on peut le vendre, avoir autant d'argent qui peuvent aussi financer la grande Célamiba. Est-ce que ces diamants, ça a été exploité comment, de quelle manière sécurisé dans la concession de la Miba ou c'est votre activité privée? Parce que vous avez quand même soulevé cette question. On sait que c'est une question principale aujourd'hui quand on parle de la Miba. Donnez-nous un peu de précision. C'était un diamant qui avait trait à la concession de la société qui fait débat aujourd'hui ou c'était dans un carré minier à l'extérieur de la concession pour qu'il soit saisi et qu'il ne soit pas retourné?
Non, mais là, c'est l'exploitation qui s'est faite dans des villages partout là et autorisée par l'État congolais. Il y a des individus qui font cette exploitation-là. Je suis parmi, j'ai exploité à Benekiswaka et c'est là, dans la mine de Fumbukabwebwe, c'est là où on a volé la pierre et amené chez les trafiquants qui l'ont frauduleusement exporté. Et l'État belge a saisi l'État congolais, c'était en 2005. Et l'État congolais a envoyé une commission gouvernementale qui a ramené la pierre et l'a gardée. J'ai introduit ma requête, c'est une pièce de plus de 800 carats. Et vous comprenez que ce n'est pas des millions, ce sont des milliards. Et le parquet, à un certain moment, quand j'ai demandé la confrontation avec ces gens-là qui avaient frauduleusement sorti la pierre, et les parquets, j'ai vu directement, soudain, les parquets arrêter les auditions et renvoyer les dossiers en Bujimaï pour que les dossiers aillent là-bas. Comment ça doit quitter les instances supérieures pour rentrer?
Voilà. Et là, c'est bien une question très très complexe, bien sûr, qui a été évoquée dans cette situation. Mais permettez que je pose la question directement à Maître Mukendi, vous qui êtes expert en droit minier. Bien sûr que cette question évoquée par Théodore Mbia n'entre pas dans le cadre, bien sûr, de la relance de la MIBA, mais c'est une préoccupation. Lui, il estime que si il peut être c'est un diamant comme celui-là peut les recettes de cette pierre peuvent relancer facilement les activités de la MIBA. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Et quelle est la réponse que vous pouvez donner rapidement pour permettre aux autres personnes de s'exprimer, Maître Mukendi? On ouvre un peu une brèche parce que ce n'est pas dans le cadre de la relance de la MIBA. Mais est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette question rapidement, Maître Mukendi, vous qui êtes expert en droit minier?
Évidemment, monsieur le journaliste. Je crois qu'en matière de diamants, il y a trop de fiction. Permettez-moi d'utiliser le terme fiction. Mais ma fonction ne me permet pas de faire un commentaire sur un dossier qui a ajouté. Il vous dit depuis 2005, il a saisi le parti général de la République. Quelle est la suite réservée à son dossier? Je pense que seule la justice est habilitée à donner solution.
Merci.
Est-ce que s'il vendait son diamant, il était disposé à prendre l'argent dans la MIBA? Je sais que ça, c'est un autre débat. Mais la justice est saisie, donc il doit suivre le dossier.
Voilà, merci beaucoup, Mukendi, Maître Mukendi, pour cette précision. Théodore Mbiana, vous avez suivi la question de la MIBA, c'est une question, votre difficulté, c'est une question. Est-ce que vous avez un mot à dire, un mot pour vous libérer, permettre aux autres personnes d'exprimer sur la question principale qui concerne la relance de la MIBA, Maître et Monsieur Mbia, rapidement?
Oui, je dis bien que sur cette question-là, avec l'argent que je peux avoir de cette pierre qui est bloquée jusqu'à présent, la justice s'est arrêtée. J'avais même vu le chef de l'État pour ça, qui m'avait promis une issue heureuse après aussi ces enquêtes. Mais j'attends jusque-là cette issue heureuse qui n'est pas encore arrivée. Mais avec cet argent, on peut non seulement la MIBA, on peut aller au-delà. Et la MIBA, si ça fait avec 300 millions peut-être, on peut relancer totalement la MIBA.
Merci beaucoup.
Oui. Mm-hmm.
Merci beaucoup, Théodore Mbia. On estime, comme vous l'avez dit, les chefs d'État, vous avez donné des garanties. Vous estimez que si vous avez cette pierre et l'argent, on peut facilement relancer aussi les activités de la MIBA parce que vous estimez que c'est en termes des milliards de dollars. On pense, comme le disait Maître Mukendi, que le dossier pourra avoir une suite. Nous avons Alphonse Kadima Kachama qui nous a écrit des Mbujimaï qui dit ceci. Si l'objectif était de relever la MIBA, tous deux procédés sont bons. Mais malheureusement, nous avons constaté que notre gouvernement n'en a pas encore en vie, depuis cette unique grande société de la province est présumée en faillite. En fait, la réalité est que la politique du régime en place est de pouvoir laisser la MIBA s'enliser dans la crise. Et comme ça, des millions de personnes sont en train de souffrir. Des salaires, les salaires des agents sont bloqués depuis un peu plus de 9 ans qu'ils sont impayés. Il y a eu plusieurs fois que les promesses ont été faites, même en 2006, le chef de l'État avait fait une promesse d'une somme qui devait être versée à la MIBA pour relancer les activités. Dommage qu'on n'a pas vu cela pouvoir évoluer. Marcelin Bis, moi, Banza Bis, ici, c'est... lui, il est dans la ville de Beni au nord Kivu. Il dit ceci, tout simplement, moi je considère que c'est le théâtre. Si on a vraiment la volonté de pouvoir relancer la MIBA, on va le faire. Mais si ça doit traîner comme ça, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de le faire. Ou soit il y a les gens qui voudraient bien que l'entreprise soit éclatée en petite entreprise, comme ça ils pourront y investir leurs capitaux. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment à l'avantage ni de la MIBA, ni des travailleurs de la MIBA. Christian, quasiment, si vous me dites ici, je serais content si cela s'est réalisé. Cela, ça fait des années que nous attendons depuis plus de 10 millions, l'échec remis de plus de 10 millions de dollars par la MIBA, par les chefs de l'État à la MIBA. Personne n'a jamais touché cet argent. Alors, pourriez-vous dire aujourd'hui qu'il y a vraiment la volonté de pouvoir relancer la MIBA? 081-890-6315. Mais nous avons des petits soucis pour vous joindre. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas encore passés. Mais d'un moment à l'autre, la ligne sera bien décantée. 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Nous avons beaucoup de gens qui se sont inscrits pour intervenir. Gardez votre patience, on va vous joindre compte tenu de... on peut dire des petits soucis quand on est en train de chercher à joindre votre réseau, mais vous allez intervenir d'un moment à l'autre. Nous rentrons en Bujuma ici. Notre ami Didier Tshibango est encore avec nous, c'est président de la délégation syndicale de la MIBA. Mais est-ce que monsieur Tshibango, depuis toutes les promesses qui ont été faites par le pouvoir public, est-ce qu'il y a eu aujourd'hui quand même des actions concrètes en termes d'argent, des capitaux mobilisés par l'État pour pouvoir quand même essayer de soutenir la relance de la MIBA dans les concrets? Avez-vous déjà vu quand même des actions posées par le gouvernement?
Par honnêteté intellectuelle, je vous dis, il y a eu des interventions, mais qui n'avaient pas tellement d'impact par rapport à la difficulté auquel la MIBA est confrontée. Voyez-vous, il y a eu des interventions, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les créances MIBA, hein, les créances MIBA sur l'État, qui étaient d'un certain ordre, ça a diminué jusqu'à 47 millions de dollars à ce jour.
Mm-hmm.
Et qu'il y a eu quand même des interventions. Mais ces interventions n'ont pas eu tellement d'impact par rapport au réel besoin, au réel problème MIBA. C'est ainsi que les promesses étant. Et comme je félicite beaucoup l'ami de l'Est, je crois que c'est Marcelin.
Oui.
Ce que Marcelin a dit là est vrai. Une volonté réelle politique de voir la MIBA sortir de là où elle n'est pas là. Et figurez-vous, depuis 2007, que nous endurons cette forte crise, si nous dressons des statistiques approximatives en matière de décès, je vous donne une moyenne pratiquement de 15 décès par jour. Donc, cette situation constitue un génocide bien planifié.
Mmh.
C'est dommage. C'est ainsi que nous vous disons. L'approche syndicale, quant au contexte de la crise MIBA, je vous ai dit, je voudrais étaler ça sur deux plans. La vision à court terme. Nous ne voulons plus ce travail-là des promesses et autres pour le maintien et la sécurisation de la production. Un, aller directement dans les contrats d'amodiation, parce que c'est l'argent direct qui va rentrer et pouvoir nous permettre aussi soit à nous autofinancer. Alors, les contrats d'amodiation, là, il faut bien les finaliser. Définir correctement les taux de loyer, n'est-ce pas?
Et juger la présence de du personnel Mouba aux côtés de Zamou Diatère pour définir correctement aussi la position journalière. Deux, aller dans les lignes de crédit auprès des banques locales. Il ne faut pas trop philosopher, aller directement dans les lignes. Si l'État qui a le pouvoir égalier peut nous aider dans ce sens-là, voilà notre préoccupation. Trois, il faut nous acheter du matériel en minier pour la production au niveau du territoire national. À Lubumbashi, si on peut trouver des engins et un meilleur marché. Maintenant, sur le plan de la vision moyen et long terme, il faut finaliser les différents crédits sollicités, peut-être chez les fournisseurs, tels que les 30 millions qu'on a sollicités chez la société indienne, la Rawbank et Quality Motors pour l'acquisition des engins miniers. Parce que là, il y a eu ce côté qui est constructeur des engins. À l'initial, il a commencé par faire des engins, de militaires, mais aujourd'hui, il fait des engins miniers, il est partout, cette société-là. Donc, nous aider donc à finaliser ces différents crédits sollicités par la MIVA auprès de ses fournisseurs, la banque, ML, Quality Motors pour l'acquisition des engins miniers. Réhabiliter les unités de traitement, parce que nous avons des unités de traitement qui aujourd'hui sont en souffrance. Il faut les réhabiliter. Et les réhabiliter avec quoi? Avec l'argent. Comme l'actionnaire majoritaire tarde, n'est-ce pas, à donner ses préfinancements, autant lui donner une ouverture avec les partenariats. Les espaces qui sont vastes. Sinon, pour les 45 km carrés qui constituent le polygone, là, nous sommes catégoriques. On n'a pas l'ambition de céder même un seul centimètre carré de cet espace.
Merci mais beaucoup.
Dans l'ensemble, c'est ce qui nous revient comme carré minier. C'est plus de 270. Là, nous sommes prêts à ouvrir le partenariat avec les autres. Mais alors, si ce n'est des contrats d'amodiation avec de personnes sérieuses, il y en a d'autres qui nous ont déjà prêté la main, hein. Mais si les autres peuvent emboîter les pas, on est laissé libre cours.
Merci beaucoup, Didier.
L'extrémage est incontrôlé, je m'en fais justement.
Voilà, merci beaucoup, Didier Chibango, pour toutes ces précisions. Vous estimez 45 km de polygone là, il n'y a pas question d'y toucher, mais d'autres concessions peuvent être exploitées en contrat d'amodiation, vous l'avez dit, mais en posant bien sûr des bases juridiques nécessaires pour permettre à ce que la société se retrouve ainsi que les exploitants. Mais dans tout ça, il faudrait de moyens. Merci beaucoup, Didier Chibango, de nous avoir appelé de Mbujimayi au Kasaï Oriental, où nous restons parce qu'il y a François qui vient de nous appeler. Et également, je voudrais bien intervenir par rapport à cette question. François, vous êtes en Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
On vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent des Mbujimayi, mais aussi ici à Kinshasa, qui voudraient bien intervenir aussi dans cet échange. D'une manière concrète, au-delà de tout ce qui a été dit, François, qu'est-ce qui doit être fait pour arriver d'une manière plus efficace à relancer la MIVA?
Merci beaucoup, monsieur Pierrot, de m'avoir associé dans ce débat. Avant de débattre ce sujet délicat qui intéresse tout le monde, voilà d'abord mon point de vue, monsieur Pierrot. La question de relancer la société minière de Bakwanga fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais toute réalité, la question que la population du Grand Kasaï se pose. Cette relance est vraiment incertaine parce que ça fait longtemps que le gouvernement ne promet que moins et merveilles. Cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas la volonté manifeste de relancer cette société. Les services minimum rendus du jour au jour à la polygone ne profitent qu'à une poignée d'individus et aux Chinois qui exploitent clandestinement autour de la concession minière et emportent tout vers chez eux, même les gars, s'il vous plaît, monsieur Pierrot. Pendant que la population du Grand Kasaï attend à bras ouverts cette relance qui a provoqué l'exode le plus chaotique du planète, permettez le terme, monsieur Pierrot. Au moment où je vous parle, monsieur Pierrot, la province est vraiment déserte. Chaque jour, nous assistons à des scènes les plus macabres de voir la population, enfants, jeunes et vieux, s'accrocher à des carrosseries de véhicules vraiment amortis et qui ne cesse de provoquer des accidents vers les provinces voisines. Le peuple kassaïen sera tellement reconnaissant au gouvernement de la République démocratique du Congo s'il aura vraiment la volonté manifeste de relancer cette société qui est le poumon même de la République démocratique du Congo. Que cette relance ne s'inscrive pas à la logique de privatisation, comme ça a été annoncé la fois passée. Car cette mise en exécution ne profitera ni à l'État congolais, généralement, et particulièrement à la population du Grand Kasaï. Ceci sera un paradis fiscal pour ceux qui vont investir.
Merci beaucoup, François.
Que cette relance ne soit pas une pierre d'achoppement pour la population.
Vous avez soulevé des questions importantes, François. Vous estimez que les initiatives qui sont là aujourd'hui ne profitent pas. Le peu de moyens mis à la disposition ne profitent pas, bien sûr, à l'AMIBA en tant qu'entreprise ainsi qu'à la population, mais à quelques personnes tout simplement. Mais pour vous, la question elle est très épineuse vu l'exode aujourd'hui, hein, vous l'avez dit, beaucoup de gens qui s'accrochent à des camions pour pouvoir aller, que ce soit au Katanga, que ce soit à Kinshasa, et toutes ces questions elles peuvent être résolues quand il y a la volonté politique manifeste de pouvoir relancer la MIBA, mais pas se plonger dans un projet de privatisation qui risque encore de profiter aux prédateurs. C'est ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, François. Ici à Kinshasa, les débats intéressent également plusieurs personnes. Félicien, vous êtes avec nous dans cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres depuis le début de cette émission. Il y a cette question de la volonté qui a été évoquée par notre compatriote Didier Tshibangu, président de la délégation syndicale. François vient de l'évoquer encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de moyens qu'on peut développer s'il n'y a pas vraiment la volonté de relancer? Ça sera difficile que la société puisse être remise sur pied aujourd'hui, Félicien.
Merci Pierrot, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Je pense que l'idée de créer des petites entreprises minières comme à la Gécamine, c'est pas mauvais si on n'a pas d'autres solutions. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se demander, de vérifier si ce qu'on a fait à la Gécamine donne des solutions et que la Gécamine est satisfaite parce que la situation de la Gécamine n'a pas changé jusqu'à ce que j'ai sache jusque-là. Bon, les privés ne peuvent pas s'intéresser à ce partenariat s'ils n'ont pas un avantage particulier, parce que ils sont des capitalistes, et généralement, dans cette situation, c'est l'État congolais qui se trouve en position de faiblesse et il est obligé parfois de signer des contrats d'honneur en faveur de ces privés-là. Et la question c'est de se demander si l'État congolais est incapable de trouver les 9 millions de dollars pour exécuter les plans d'urgence de la relance comme prévu pour cette entreprise. Et puis on doit se demander pourquoi on a toujours géré ces entreprises publiques, ces établissements publics, sans trop de problèmes depuis l'époque coloniale. Mais ces derniers temps, on dirait qu'on parle un peu de plus en plus de partenariat État privé. Cela ne signifie pas qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance. Pourquoi on ne peut pas faire une évaluation de la marche des entreprises et des établissements publics pour voir quelles sont les causes qui font que ces entreprises fonctionnent plus bien par rapport à l'époque de l'organisation de la Deuxième République. Moi, je pense que si on peut faire un bilan, on se rendra compte que même les entreprises qui marchaient un peu sont entièrement en difficulté. Et pourquoi? C'est les causes que nous devons chercher. Et puis, l'État ne peut pas tout le temps penser que quand ça n'a pas marché directement, il faut céder les entreprises, faire des contrats d'amodiation, faire des contrats de partenariat, tout ça. Il faut nécessairement examiner et trouver les causes et chercher des remèdes qu'il faut, mais pas toujours recourir à cela. Là, il y a des commissions qui interviennent et les gens sont intéressés à chercher des particuliers pour avoir des commissions.
Merci.
dans ce dossier de Neba, moi je veux que le point de vue des syndicalistes soit pris en compte, parce que c'est eux qui sont avec l'entreprise et eux qui connaissent les réalités. Il ne faudra pas qu'on néglige cela.
Merci.
Non, nous allons aller toujours en s'enfonçant davantage dans ce pays.
Merci beaucoup, Félicien. Vous avez évoqué la question de la gouvernance et vous estimez qu'il faudrait quand même à un certain moment qu'on fasse l'évaluation, non seulement la Neba, il y a d'autres entreprises du portefeuille de l'État. On a vu dans cette évaluation que nous faisons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient bien gérées, connaissent des difficultés aujourd'hui. Faudrait-il faire une analyse approfondie et que l'État prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Félicien. Mais en attendant, Valérie, vous êtes à qui de garder la ligne. Maître Ken Mukendi, vous êtes expert en droit minier. Vous avez suivi les uns et les autres jusqu'à ce niveau du débat. Qu'est-ce que vous pouvez compléter par rapport à toutes ces interventions?
Voilà, merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que j'épouse le point de vue de syndicalisme et bas en souci. Il faut d'abord reconnaître ou rappeler que les contrats à signer dans les secteurs de mines, ce sont des contrats déjà nommés, c'est-à-dire les contrats nommés par le code minier. Nous avons par exemple la mobilisation. Je crois que j'ai parlé du contrat qui est intervenu entre ces deux villes. Et le MIBA, c'est un contrat d'amendation qui a été régulièrement enregistré au cadastre minier. En dehors de l'amendation, il y a le contrat de cession qui est aussi régi. Le contrat d'amendation est régi par l'article 177 de la cession au niveau de l'article 182 du code. La difficulté avec la MIBA, c'est quoi? Lorsqu'on amène la MIBA sur des pentes des contrats innommés, ça pose problème. Par contrat innommé, j'entends des contrats qui ne sont pas reconnus par le code, qui ne sont pas réglementés par le code minier. C'est là que la MIBA a eu beaucoup de difficultés, notamment lorsqu'il a signé, par exemple, le contrat Biel-Marton, qui était pratiquement, littéralement, un contrat léonais, et ça posait beaucoup de difficultés à la MIBA. Je crois que la proposition de signer les contrats réglementés par le code, c'est la seule solution qui s'impose en termes de technique de ce financement. Notre approche n'est pas après encore moins théorique, c'est une approche pragmatique. Vous attendez, c'est bien beau. J'ai dit que les sociétés sont les premiers responsables de la société qui est leur bien. Voyez-vous, donc il faut que les sociétés pourvoient des moyens à la société pour son fonctionnement. Mais lorsque les sociétés ne parviennent pas à pourvoir les moyens, nous avons une autre technique. Alors que nous avons proposé ce palliatif, la technique d'autofinancement. Je suis le syndicaliste qui parlait du fonds MIBA, je l'ai dit. On ne peut pas demander à la MIBA de procéder du polygone MIBA. Non, à ce moment-là, ça risque de créer des problèmes. Le polygone MIBA doit rester une propriété MIBA et en activité au profit de la MIBA. Il y a des concessions qui, depuis que la MIBA est MIBA, comme je l'ai dit, ne sont jamais exploitées. Donc, au lieu de les gérer, il faut les rentabiliser. Parce que c'est bien beau d'avoir des gisements avérés, comme l'a dit le syndicaliste. Mais même si ces gisements ne sont pas exploités, c'est manque à gagner pour la société. Et pour qu'ils exploitent, il faut signer des contrats win-win. Et pas des contrats en maison, il faut signer des contrats qui soient réglementés par le nouveau code minier. Donc voilà ce que je peux dire. Par rapport à François de Mouzoumaï qui a pratiquement présenté un tableau très noir de la population de la ville de Zest, en fait la province du Kapa Oriental n'est pas de Zest, la preuve en est qu'il y en a qui interviennent. Au moment qui intervient, je suis à Mouzoumaï. Donc, l'essentiel, c'est que nous devons conjuguer des efforts d'une manière objective, contribuer à la relance de la MIBA. Il est vrai, lorsque la MIBA était MIBA, elle déboucha elle seule à la fin de chaque mois avec la paye des travailleurs, plus de 2 millions de dollars. Donc, la chute de la MIBA aujourd'hui a grandement affecté l'économie de notre province. Donc, on est déjà la province aujourd'hui que la MIBA puisse se relancer. Parce que les factures de la MIBA, c'est aussi un problème sécuritaire. La MIBA emploie plus de 4000 personnes, plus de 4000 employés. Figurez-vous que tous ces gens sont sur la rue, oui, avec tout ce qu'il peut y avoir comme débordement. Donc, c'est vraiment important, pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes,
Voilà, Maître Mukendi, on vous garde en ligne, on vous garde en ligne, on va revenir à vous.
Ce
qui a été dit. Merci. On va revenir à vous. Il y a beaucoup d'auditeurs, comme je le disais. La question intéresse beaucoup de personnes qui sont en bougement et qui nous appellent. Valérie, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. On va vous écouter, Valérie. Au-delà de ce qui a été dit, quel est votre point de vue par rapport à cette question, Valérie? Bonjour.
Ok, merci beaucoup, Thierry Lamégie. Bon, j'ai suivi tout le monde. Je crois qu'il est clair que le problème de la MIBA, sa relance, bien sûr, demande plus de 9 millions de dollars. J'ai été surpris d'apprendre qu'il faut 9 millions pour sa relance. Mais je ne comprenais plus rien. Parce que, il vous souviendra qu'il y a quelques années, le chef de l'État était en Bougimaï, il avait présenté un chèque de 10 millions il y a quelques années. Comment se fait-il que, après quelques années, 2 ou 3 ans ou 5 ans, on puisse nous dire qu'il faut maintenant moins que cela, alors que si les productions doivent être dégradées encore beaucoup plus. Lorsqu'on nous présente les 9 millions, je vois plus peut-être les problèmes techniques, mais il y a aussi les problèmes du personnel. N'oubliez pas qu'après les jeux de Castaïen de 92, à l'époque du PAD Jonas Moukamba, il avait quand même recruté un bon nombre de réfugiés castaïens qui revenaient de Katanga, et que cela a aussi augmenté l'effectif, donc les charges fixes de la MIBA.
Dommage qu'on vient de perdre Valérie Kessa Kindou qui montrait que le besoin, c'est au-delà de 9 millions. Les 9 millions ont été classifiés par rapport aux besoins, les dépenses qui ont été déjà faites, l'argent qui a été décaissé et la situation qu'on pouvait avoir en urgence en main pour le moment pour intervenir. Dommage qu'on a perdu Valérie qui est en train d'expliquer de quelle manière on peut arriver à s'en sortir. Nous allons prendre Emmanuel Ilunga qui nous appelle, qui réside en France. Vous êtes chef d'entreprise, économiste et des formations. Vous avez suivi les uns et les autres. On voit l'importance de la MIBA dans l'économie de la province du Kassai dans l'ensemble, si on pourrait dire ainsi, et le fait de discuter qu'on est la société aujourd'hui. Alors pour vous, en tant qu'économiste et chef d'entreprise, à quel niveau doivent se retrouver les interventions qui peuvent relancer cette société et pouvoir la sauver? Emmanuel Ilunga, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup à tous les auditeurs. Tout d'abord, je suis non seulement chef d'entreprise, mais un dirigeant politique à la base. Le problème de la MIBA est très complexe, parce que moi je vais aborder la question sur l'angle politique. Et la MIBA étant une entreprise étatique, son développement, sa stabilité dépend des décisions politiques. Si la MIBA se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile, parce que les décisions politiques succédées ont été négatives par rapport à l'avancement de cette société, notamment les gens qui ont été à la tête de cette entreprise. À ce jour, il ne faudrait pas isoler la situation de la MIBA de la situation globale des entreprises publiques en RDC.
Mm-hmm.
Parce que toutes les politiques des entreprises publiques se décident à Kinshasa, à travers le gouvernement central. Si on isole le problème de la MIBA, je pense qu'on aura un mauvais diagnostic, on aura fatalement une mauvaise réponse. Il faut d'abord commencer par savoir quelles sont les orientations du gouvernement, est-ce que le gouvernement a réellement la volonté nécessaire de réaliser la MIBA, de sortir la MIBA de ses difficultés. Moi, personnellement, j'en doute. Je doute. C'est pour cela, la difficulté est là. Il faut commencer déjà par organiser politiquement les grandes décisions qui font que les entreprises publiques deviennent compétitives.
Mmh.
À ce moment-là, les choses vont suivre tout naturellement. La situation de notre entreprise, la MIBA, pour la région du Kassa Oriental, qui est une entreprise centrale, parce qu'elle joue un très grand rôle dans l'économie du Kassa Oriental. Et à ces jours, le fait que la MIBA soit plus ou moins chez nous, ça a impacté sur la vie même de nos populations qui sont dans le Kassa. C'est pour cela, la solution à cette question, elle n'est pas dans les mains des dirigeants de la MIBA d'aujourd'hui. Et même du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement prenne ce problème à bras le corps pour le solutionner à travers des dotations et à travers une certaine rigueur dans la gestion pour savoir comment la MIBA va se réaliser. Sinon, dans le cas échéant, ça risque d'être un peu difficile. On risque de faire un coup d'épée dans l'eau. Il avait fait des analyses, avancé des arguments, mais si on ne tient pas compte de la source du problème, de la problématique même, je crois qu'on va être totalement à côté. Et on ne pourra pas faire un diagnostic assez correct.
Emmanuel Ilunga, une deuxième question pour vous libérer. Vous estimez, mais quand on voit l'importance d'une entreprise qui maintient la stabilité économique d'une province qui emploie autant de personnes et qui est aussi la grande source de financement pour l'État, comment arriver au niveau où, sur le plan politique, l'État se désintéresse ou n'est pas la volonté de pouvoir relancer une entreprise? Et pourtant, tu dois répondre aux besoins même de ce que l'État veut, c'est de l'emploi, c'est la stabilité, c'est le développement du milieu dans lequel les entreprises sont installées.
Oui, Il y a aussi le problème des compétences. Il y a le problème des compétences et des visions. Quelle vision l'État a sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans du progrès de son pays? Alors, nous avons des dirigeants qui ne s'occupent pas de souffrances de leur peuple. Les difficultés de l'offre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas se mentir. Et les dirigeants sont négligents, mais volontairement négligents, et où ils ne sont pas compétents. Et ils regardent tout d'abord leurs intérêts, qu'est-ce que je vais gagner, est-ce que je peux donner le maximum de moi-même, qu'est-ce que moi j'en tire comme bénéfice personnel. S'il n'y a pas un bénéfice personnel, il ne fera rien. Même si collectivement, ça va profiter à tout le monde. Donc, c'est pourquoi, d'entrée, je vous ai dit, je suis non seulement chef d'entreprise, mais je suis dirigeant d'un parti politique, l'ART, donc l'Action républicaine pour le progrès. Et donc, nous, dans nos réflexions diverses que nous faisons, c'est que nous disons que l'État doit chapeauter la politique générale de notre pays. Mais elle n'est pas responsable. Elle doit orienter, donner des orientations.
Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Lunga. Merci beaucoup, Emmanuel Lunga, parce qu'on est bousculé par les temps. Vous estimez qu'ici, la question de l'AMIBA ne doit pas être analysée d'une manière isolée, et elle doit entrer dans la ligne des comptes de la politique de l'État. C'est une question d'abord politique. Qu'est-ce que l'État veut faire de cette société? Quels sont les moyens qu'il faut donner à la société pour pouvoir la relancer, la développer, maintenir cette économie? C'est une question d'abord du gouvernement central. Et vous avez dit, la question n'est pas au niveau du dirigeant de l'AMIBA, mais c'est au niveau de la politique réelle que le gouvernement veut et établi par rapport à l'AMIBA. Merci beaucoup de nous avoir appelé de France. Nous avons un auditeur à Lubumbashi, je crois bien sûr, c'est le dernier. Tom, merci de nous avoir appelé pour intervenir dans cet échange consacré à l'AMIBA. Vous êtes avec nous de Lubumbashi, Tom. Bonjour.
Bonjour, je pense que je n'aurai pas suffisamment de temps pour pouvoir parler. Mm-hmm. Mais dans les peu de minutes que vous m'accordez, je vais essayer de parler un peu beaucoup plus vite. Où je pense que le problème, l'AMIBA, d'abord, ce n'est pas un cas isolé, voyez-vous. C'est comme les autres l'ont dit, c'est parmi les entreprises publiques qui ont plusieurs maux, plusieurs problèmes à pouvoir résoudre. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Le monsieur de l'AMIBA, dont le nom m'a échappé, a parlé de la médiation, ainsi de suite, pour, comme piste de solution pour résoudre les questions pour résoudre le problème qui se pose sur lui à l'AMIBA. Pour moi, je pense que c'est un faux problème. Un faux problème comment? Voyez-vous, depuis 2001, l'on a libéralisé le secteur minier ici en RDC. Et que la GECAMINE a été restructurée depuis 2001. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, il se pose le problème, l'on ne ressent pas les retombées de la restructuration ou de la modération. On a commencé par le joint venture, on est passé par la modation, on a essayé toutes ces petites solutions, mais on ne ressent pas les retombées économiques de ces restructurations ou ces mécanismes pouvant relever ces entreprises minières. Comment? Notamment par les insuffisances qui concernent le capital humain. Savez-vous que dans les entreprises minières au Katanga, il y a plus d'étrangers que des Congolais dans les domaines techniques notamment? Alors, est-ce que nos amis de province du Kasaï sont-ils aujourd'hui à mesure de pouvoir, avec la haute technologie de pointe, lorsqu'il y aura à modération, de pouvoir participer à ce qui concerne en termes de ressources? Est-ce que la province aura ses ressources pour que la population puisse se ressentir? Je ne pense pas. Un autre problème. Nous devons aujourd'hui, le gouvernement doit faire le lobbying de cette entreprise, que l'on sache exactement quelle est la valeur réelle de cette entreprise, qu'est-ce que l'AMIBA représente en termes de gisement. Mm-hmm. Parler des 10 millions, c'est un faux problème. L'AMIBA aujourd'hui a une créance de plus ou moins de plus ou moins de 40 quelques millions. Comment voulez-vous une entreprise qui a une créance de 40 quelques millions vouloir élever avec 10 millions? Ça n'existe pas. Donc il faut plus de ressources. Alors, comme il faut plus de ressources, on doit passer par le lobby. Essayer d'expliquer aux investisseurs, l'AMIBA aujourd'hui, elle représente quoi? Quelle est sa valeur réelle? Quelle est sa valeur de son gisement? C'est à partir de ça, les gens seront curieux de savoir si
merci,
ça
merci,
quelque part en République démocratique du Congo,
merci.
Une entreprise où l'on peut investir.
Investir, on peut aussi, l'investissement peut être rentable. Merci Tom, on ne saura pas aller plus loin, mais vous avez quand même évoqué cette question avec les sciences de la GECAMINE. Vous estimez que la population aujourd'hui ne ressent pas les retombées de tout ce qui a été fait comme contrat d'amodiation. Faudrait-il aujourd'hui avoir encore la main d'œuvre qualifiée et les ressources nécessaires, parce que la situation au Katanga, c'est que c'est plus les étrangers qui travaillent dans ces entreprises qui est les Congolais eux-mêmes. Mais notre ami Didier Kibamou avait évoqué la certification, parce que personne ne peut aujourd'hui mettre les capitaux quand il n'est pas sûr du jugement, des jugements et de ce qu'on peut y trouver et ce qu'on peut gagner en termes de rentabilité si on pourra y investir. On revient à vous, maître Ken Mukendi. En 45 secondes, vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange autour de la relance de la MIBA?
Voilà, je voulais juste répondre à notre ami, dont je viens d'oublier le nom, qui a appelé de l'étranger en MIBA, que l'approche que nous proposons ne vient pas ici dédouaner l'État de sa responsabilité première vis-à-vis de la MIBA. Mais nous avons dit que c'est un palliatif en attendant l'intervention de l'État. Effectivement, les mâles ont dit au grand mot des grands remèdes, il faut que l'État intervienne suffisamment. Notre ami du syndicat a parlé de 45 millions que l'AMIBA, que l'État doit à l'AMIBA. Il y a aussi le plan de la relance globale qui doit intégrer la créance de l'AMIBA qui s'élève pas à 45 millions, mais à plus de 200 millions de dollars. Donc à ce moment-là, il faut que l'État intervienne conséquemment pour pouvoir relancer à l'AMIBA. Mais ce que nous disons, c'est une solution palliative en attendant l'intervention de l'État. Mmh. Selon les informations, nous avons subi, on a voté les budgets. Est-ce qu'il y a une enveloppe, une rubrique prévue à la relance de l'AMIBA ou aux entreprises? Je ne sais pas s'il y en a. Mais en attendant que cela soit solvé, que nous disons, voilà une technique, une approche
pratique
d'autofinancement de l'AMIBA pour pouvoir maintenir un état de fonctionnement, aussi de production,
merci.
Et sauver, s'encourager, soit en peu, la puissance
de la population au Kassai oriental. Merci. François Dembou-Jumaï. Merci beaucoup, maître Ken Mukendi, expert en droit minier. Merci. Vous avez été très nombreux à nous avoir appelés, mais dommage aussi pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, parce que beaucoup de gens nous ont appelé Dembou-Jumaï. On ne pourra pas avoir un grand espace qui est ça. Merci à Berry Franklin Luchaka qui a réalisé cette émission mise en onde par Paul Badianyama. Pierrot et la Mélie, je vous la présenter sous la supervision de Martin Sebou-Jangue. On retrouve Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.